Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Aujourd'hui, dans cette belle émission Mission Vision, on va avoir un beau spécial École Jacques Ouellette. Donc, ça va être super intéressant parce que, bon, vous le savez, cette émission est pour parler de l'handicap visuel. Moi-même qui en a un et je n'ai jamais fréquenté cette école. Je n'étais même pas au courant que ça existait. Ça fait même pas si longtemps que je le sais. Donc, je me suis dit, on doit en parler, on doit expliquer finalement qu'est-ce que c'est cette école spécialisée pour des jeunes en situation de handicap visuel. Donc, je vais recevoir plusieurs professionnels qui ont des chapeaux différents. Et je vais commencer avec Jonathan Bergeron, qui est enseignant en éducation physique. Et je vais avoir Éric Roussel, lui, enseignant en informatique. Donc, on va pouvoir en apprendre davantage sur l'école, mais leur parcours, parce que moi, j'aime toujours faire le parcours aussi. Alors, bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bien le bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Je suis vraiment contente parce que, comme je disais, on va parler de cette école qui est, je pense, c'est une école supra-régionale qui est dans la région de Longueuil, mais je pense que tous les enfants de différents, je vais dire, quartiers peuvent y venir ou c'est vraiment du Québec?
Donc, c'est tous les élèves en réalité de l'ouest du Québec. Parce que l'Est du Québec ont leur propre service, tandis que l'école suprarégionale, c'est du côté ouest du Québec. Donc, tout ce qui est commission scolaire qui sont disponibles dans le territoire.
OK. Mais c'est une école qui fait partie, justement, de la commission scolaire Marie-Victorin. Donc, c'est ça. C'est pas privé, là. Donc, ça fait partie de la commission scolaire. Et là, moi, je voulais savoir un petit peu parce que, bien, vous n'êtes pas en situation de handicap visuel, messieurs.
Non.
De ce que j'en ai compris. On dirait à chaque fois que je marche un peu ses yeux, je me dis, ah, tu sais, je pourrais dire, ils sont pas en situation de handicap visuel, puis ils pourraient dire, ben oui, j'ai une petite situation qui ne paraît pas, mais oui. Mais non, c'est ça, vous n'êtes pas en situation de handicap visuel. Donc, moi, je voulais qu'on remonte un petit peu au niveau de votre parcours pour dire, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous êtes avec des personnes en situation de handicap visuel, donc au niveau du chemin. Qu'est-ce qui vous a mené à être avec cette clientèle-là en particulier? Donc, je vais commencer avec Jonathan pour voir un petit peu, est-ce que déjà, dès que tu as commencé à faire tes études à ton bac, toi, c'était clair, ah, je m'en vais en déficience visuelle ou ça s'est passé un peu une expérience, une autre, et ça t'a amené là?
Je peux pas dire que je savais que j'allais aller en déficience visuelle nécessairement, mais au travers des stages de mon bac, déjà, j'ai eu des clientèles différentes. J'ai eu des TSA, j'ai eu des troubles de comportement. Donc, ça m'a amené un petit peu à avoir une curiosité par rapport aux élèves différents, aux élèves avec des défis un petit peu plus grands.
Ouais.
Puis à la maîtrise, mon sujet de maîtrise a été l'éducation physique avec les élèves TSA. Puis bon, comment on adapte ça pour des comment faire bouger des élèves qui, bon, bougent un petit peu moins que, on va dire, entre guillemets, là, la norme.
Oui.
Fait que j'ai toujours eu ce petit côté-là d'aller vers les élèves qui ont des...
À besoin particulier, parce que c'est pas parce qu'on est en éducation physique qu'on s'en va dans cette clientèle-là. Il y a plusieurs, tu sais, qui vont vous dire primaire, secondaire, tu sais, au niveau...
Ben, tu sais, la majorité des profs d'édu vont aller vers le régulier,
oui,
si on peut dire.
Oui, c'est ça.
Mais moi, j'ai toujours eu cette petite curiosité-là, puis j'avais de la facilité, le côté relationnel avec les élèves, bon, à des filles particuliers. Puis j'ai eu un petit peu la question de me dire comment on peut faire bouger ces élèves-là qui, peut-être, de façon intuitive, bouge un petit peu moins que le restant de la société.
Oui.
Puis, de fil en aiguille, j'ai eu ces clientèles-là. Puis, c'est un addon...
Au niveau de la déficience visuelle.
Oui. Je ne connaissais pas grand-chose au niveau de la déficience visuelle quand j'ai commencé à Jacques Ouellette.
Ça fait combien de temps à Jacques Ouellette?
C'est la 7e année.
OK.
Donc, il y avait un poste disponible pour le prof d'éducation physique. On m'a appelé, puis j'ai décidé de relever le défi.
Donc, ça veut dire qu'avant Jacques Ouellette, il n'y avait pas eu d'expérience avec des jeunes en situation de handicap visuel.
Un gros zéro.
Ouais.
Fait que ça a été, je vous dirais, un saut dans le vide, surtout quand on t'a dit qu'une partie de ta tâche va être dans la piscine.
Mm-hmm.
Donc là, tu te dis au début, je vais enseigner à des élèves avec une déficience visuelle, non seulement dans le gymnase, mais aussi à la piscine.
Oui.
C'était, je me suis lancé dans le vide.
Littéralement, hein?
Oui.
Lancer un beau plongeon dans cette clientèle.
Puis bon, ben c'est normal, les premiers mois, la première année, on pédale un petit peu, on essaie de tout comprendre, on essaie de se sortir de l'eau, justement.
Mm-hmm.
Là.
Mm-hmm.
Puis avec les années, ben c'est ça, on parle avec les collègues, on développe une expertise, puis...
Et 7 ans plus tard, c'est ça,
je suis encore là, bon, je suis un petit peu moins stressé qu'à la première année, mais...
Ouais.
J'apprends encore à
plein
toutes les années, ouais.
Mmh.
Puis même que.
Et je vous confirme qu'il est très bon.
Comme prof d'éduc.
Exactement.
Oui.
Ben là, il me lance des fleurs, mais c'est une des premières personnes que je suis allée voir quand je suis rentrée à Jacques-Ouellette, c'est Éric.
Éric.
Parce que on m'avait dit qu'il avait déjà été prof d'éduc à Jacques-Ouellette.
Ok. Là... Ah ben là, je comprends. Pourquoi vous deux ensemble, tu sais, le lien du prof. Et ça me fait rire parce que quand on parle avec un prof d'éducation physique, souvent c'est ça, prof d'édu. Tu sais, il y a comme vraiment le petit jargon entre profs, c'est des profs d'édu.
C'est vrai que oui.
Comme, il n'y a pas l'éduc. Tu sais, il y a comme les profs d'édu. Alors, Éric, prof d'édu, hein, finalement, au début, ça veut dire que, même chose, là, au niveau du parcours, est-ce que ça a été un peu comme Jonathan, c'est arrivé comme ça, ou il y avait quelque chose de plus, moi, je veux aller vraiment déficience visuelle?
Mais lors du bac, il y avait un cours qui s'appelait Activité physique et handicap, où justement, qu'on touchait à l'ensemble des handicaps associés.
Oui.
Puis évidemment, la déficience visuelle avait toujours été une curiosité.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça qui m'a permis de faire un stage au niveau de l'association de goalball du Québec et également de faire un travail, c'était au niveau de l'équilibration sur la poutre pour un aveugle
complet. Oh,
donc, à partir de là, évidemment, ça a créé une forme de curiosité d'une clientèle fort intéressante à comprendre.
Oui.
Puis évidemment, lorsque j'ai commencé à l'école Jacques-Ouellette, ça a été un drôle d'adon. C'est-à-dire que j'avais eu plusieurs contrats.
Ouais.
Et là, j'arrivais en début d'année scolaire où que j'avais rien qui était sur papier. Donc, là, je me suis informé, il y avait une possibilité d'avoir un contrat de mathématiques à la commission scolaire. Je dis, pourquoi pas? J'ai toujours hésité entre faire mon bac en éducation physique ou mon bac en mathématiques.
Ou en mathématiques.
Donc, finalement, je rejoins la personne des ressources humaines. Il commence à me parler. Il dit, hey, toi, tu es en éducation physique? Je dis, oui. Tu connais-tu ça, la déficience visuelle? Là, je t'entends, je répète ce que j'ai, que je viens de dire. T'as-tu quelque chose en adaptation scolaire? Et oui, il me reste un cours pour finaliser mon certificat en adaptation scolaire. Puis là, il me pose la question également, t'as-tu tes licences de piscine, ton croix de bronze? J'ai dit oui, ça tombe bien. En fin de semaine, je passais mon examen de croix de bronze. Et là, évidemment, il me dit, tu bouges pas, t'attends mon appel. Et le lendemain, je commençais à travailler à l'école Jacques-Ouellette. Parce que la direction demandait que le professeur d'éducation physique ait tous ses exigences.
Toutes, là. Tu sais, là, à ce moment-là, il y avait vraiment l'exigence de connaître la déficience visuelle,
qui était évidemment un avantage. Mais je vous dirais un atout. Mais quand on fait un cours qui parle d'handicaps divers, c'est quand même un mini survol de différents handicaps.
Ben oui, c'est ça. Là. Donc, on ne fait pas un 45 heures juste au niveau de l'handicap visuel. Là.
Exactement.
On effleure. Mais là, ça veut dire que là, à ce moment-là, c'est l'éducation physique. Là, donc, combien de temps à Jacques-Ouellette?
Moi, je suis arrivé en réalité, considérant que j'étais un petit peu plus vieux que Jonathan, moi, je suis arrivé en décembre 92 à l'école Jacques-Ouellette.
Okay.
C'est l'année de ma naissance. Petite anecdote.
Mon Dieu, c'est très drôle, ça. Parce que c'est ça, hein? C'est quand on remonte. Et là, en ce moment, on dirait qu'on ne voit plus la différence.
Mais c'est bien gentil, c'est
mais
bien
quand on est jeune, c'est ça. Tu dis, toi, tu commençais en enseignement. Moi, je naissais.
Donc, c'est ça, je suis arrivé en décembre 92. Par la suite, j'ai fait un 5 ans éducation physique piscine, un petit peu comme Jonathan.
Oui.
Puis évidemment, je remplaçais quelqu'un qui était en congé de maladie. Cette personne-là est revenue. Donc là, il y avait une possibilité d'aller au service externe. Dans ce temps-là, ça s'appelait des enseignants itinérants, c'est-à-dire c'est des professeurs qui étaient responsables de l'intégration des jeunes.
Mm-hmm.
Donc maintenant, ça s'appelle des PRDV, c'est-à-dire des personnes ressources en déficience visuelle.
Oui.
Puis j'ai fait ça 3 ans.
Okay.
Et j'ai adoré. On était une équipe de 14 personnes qui parlaient de la déficience visuelle, qui parlaient de la pédagogie, mais je m'ennuyais beaucoup du contact direct avec
les jeunes.
Oui, parce que là, on est un petit peu toujours à l'externe de l'apprentissage.
Ça fait un peu comme conseiller pédagogique.
Mais c'est exactement ça.
C'est ça.
Exactement ça. Et lorsque je suis revenu, là, j'ai proposé, parce que l'informatique a toujours été, malgré mon bac en éducation physique, a toujours été un dada, une curiosité. Mm-hmm. Donc là, je voyais que les portables arrivaient dans les classes, je voyais les titulaires qui étaient plus ou moins à l'aise avec ces nouvelles technologies-là, surtout pour les élèves de cécité.
Oui.
Et là, évidemment, j'ai proposé à la direction un petit programme en informatique qui ciblait seulement le deuxième cycle du secondaire, donc secondaire 4, secondaire 5.
OK.
Et là, ça a commencé, 70%
en informatique.
Mais 70% en éducation physique piscine.
Oui.
Et 30% en informatique. Et ça
mais créé... l'informatique, dans le fond, c'est comme ça aussi, c'est arrivé comme ça parce qu'il n'y avait pas de formation spécifique au niveau de l'informatique.
Non, mais je dirais que j'avais assez de connaissances pour partir le
Oui,
le
c'est
processus.
Ça, comme c'est ça, là, tu sais, qu'il y en a que naturellement, ils ont ça, là, cette espèce de connaissance de cette technologie-là et qu'il y en a d'autres, c'est le contraire. Moi, parle-moi pas de ça, je comprends rien.
Puis, évidemment, en fonction des années, le pourcentage a complètement changé parce que là, il y avait l'intérêt. Puis, depuis, je dirais, à peu près tout près de 20 ans, là, je fais du préscolaire jusqu'en secondaire 5 en informatique.
En informatique. Donc, là, c'est vraiment un enseignant en informatique et non comme une personne ressource, je pourrais dire, pour les professeurs, là.
Bien, je dirais un mélange des deux parce que la beauté de l'école, la couleur qui a été établie du côté des cours d'informatique, c'est que les titulaires sont avec moi.
Les titulaires de...
Les professeurs. Tout? Les professeurs, oui, tous les professeurs, à part au niveau du secondaire, mais tous les professeurs du préscolaire ou du primaire sont avec moi lors du cours d'informatique.
Le cours donné aux élèves, mais les professeurs sont là.
Oui, parce qu'en même temps, c'est une forme de formation directe.
Oui.
Donc, on n'a pas besoin de libérer la personne. Donc, la personne est toujours avec nous. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus fluide en termes d'apprentissage. Puis, ça nous permet également que les objectifs qui sont travaillés en informatique sont immédiatement utilisés en fonction des situation de classe pour répondre aux différentes compétences disciplinaires.
Et en même temps aussi, comme on dit, c'est ça, c'est qu'au primaire, ben c'est un enseignant, là, c'est ce qui est, tu sais, un enseignant ressource qui a la classe et l'éducation physique, ouais, tu sais, là, c'est autre chose. T'sais, là, c'est comme l'élève sort de sa routine avec son enseignant pour aller voir les autres professeurs. Là. Donc, ça veut dire que c'est comme le professeur titulaire des élèves. C'est lui qui est là dans la classe.
C'est ça,
et non tous les profs, comme exemple Jonathan et compagnie. Là.
Oui, mais c'est plutôt des capsules de formation qu'on a peut-être durant les journées pédagogiques ou après les heures de classe. Mais le cours d'informatique est vraiment dans la grille horaire de l'élève.
De l'élève, OK, puis ça fait 20 ans que vous faites ça.
Exactement.
Je trouve ça vraiment intéressant parce que, comme je disais, moi-même, je suis en situation de handicap visuel et Jacques Ouellette, j'avais jamais entendu ça, tu sais, quand j'étais jeune. Tu sais, moi, je suis née en 82, donc 10 ans avant. et là, je comprends que ça existait déjà, Jacques Ouellette, parce que moi, j'avais 10 ans quand vous avez commencé à enseigner. Ça veut dire que cette école-là existait déjà, mais... J'étais pas du tout au courant, là, que tu sais, j'ai su ça vraiment très, très tard, là, comme adulte, très abouti, là, que j'ai su qu'il y avait une école spécialisée. Parce que moi, en plus de formation, je suis éducatrice spécialisée. Donc, j'ai commencé au niveau d'une commission scolaire plus sur la Rive-Nord, la commission scolaire, la CSSMI. Et nous autres, on n'avait pas du tout de programmes spécialisés au niveau de l'handicap visuel. Donc, je me demandais tout le temps où allaient ces enfants-là. Tu sais, qu'est-ce qui se passait, mais je savais pas plus, là. Tu sais, c'était quoi, mais en même temps, j'avais pas non plus, tu sais, fait des recherches spécifiques à ce niveau-là, là. Mais c'est après, je me suis dit, ben OK, non, mais à Jacques Ouellette, c'est pas juste des enfants avec une cécité complète, là. Tu sais, il y a toutes sortes de types de handicap visuel. Donc, vous pouvez enseigner à un jeune qui a un résidu visuel comme à un jeune qui ne voit plus rien du tout.
C'est la beauté de, de notre école. On a des groupes très diversifiés là, au niveau du handicap visuel. Donc, moi, dans un cours d'édu, je peux avoir, c'est ça, deux... on dit deux aveugles complets.
Oui, ouais, ouais, on comprend. Là.
Puis deux élèves qui ont un résidu ou qui ont d'autres handicaps visuels.
Oui.
Alors, la dynamique est complètement différente, mais on doit faire avec pendant la période.
Mais est-ce que le cours, à ce moment-là, est construit comme un cours pour des enfants qui ont vraiment une cécité complète? Donc, on part de là, on se dit, OK, ils sont tous aveugles, ils voient rien. Et là, s'il y en a qui voient un peu, ben là, on va ajuster. Ou c'est vraiment, en partant, adapté pour, tu vois un peu, pas du tout, c'est la même chose.
Je dirais que c'est la beauté du principe de... d'essai-erreur.
Ouais.
Avec les mois, les années, on essaye de trouver les meilleures adaptations possibles à même le groupe.
OK.
Pour moi, dans mon cas, c'est toujours l'objectif de les faire bouger.
Oui.
Bon, puis après ça, d'aller chercher les compétences.
Oui, parce qu'il y a des compétences.
C'est ça. Mais comment je peux faire pour les faire bouger le plus possible dans la petite heure que j'ai avec eux, là, disons, dans la journée?
Oui.
Pour essayer, bon, qu'ils soient heureux, qu'ils apprécient l'éducation physique.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, je fais pas ça tout seul. Il y a souvent des TES avec moi.
Ouais.
Il y a aussi des préposés.
Okay.
Parfois, je suis seul avec ceux qui sont un petit peu plus autonomes.
Ouais.
Donc, c'est un heureux casse-tête là, d'adaptation, de modification. C'est des deux mots qu'on emploie le plus souvent. C'est ça. Qu'est-ce que je peux adapter dans mon matériel, dans les règlements, dans ma façon d'enseigner pour que mes cinq élèves devant moi, qui sont tous aussi différents les uns que les autres, puissent essayer de bouger là, dans la période donnée.
Et est-ce que, justement, au niveau des objectifs de compétences, c'est la même chose que des enfants réguliers? Ou déjà, il y a des adaptations au sein des de justement, l'évaluation, là?
Bon, je veux pas nécessairement qu'on entre dans un gros débat du programme
mais quand même.
De formation, mais en fait, c'est je peux dire que je vais partir des compétences du programme. Puis on appelle ça la progression des apprentissages. Donc, on a une liste d'actions, de compétences et de...
Comme ça peut être de jongler, me rappelle, là, au primaire, des fois, il fallait jongler avec des foulards, là.
Ben, c'est ça.
Il y a toutes sortes d'affaires. Des fois, on dit, à quoi ça va me servir dans la vie?
Donc, je vais piger à travers toute cette banque de compétences et d'actions-là que l'élève peut faire. Là, et je vais adapter, comme je disais tantôt. Je vais, comme on dit, en prendre et en laisser. Parce qu'à un moment donné, il faut rester réaliste.
C'est ça, là.
Et en ayant l'optique de toujours essayer de faire aimer l'éducation physique et faire que le jeune aime bouger puis qui souhaite bouger à l'extérieur, à la maison, ben c'est ça. Il faut faire des choix au niveau du programme. Une fois que ces choix-là sont faits, ben là, j'essaie vraiment de maximiser comment je peux l'amener à s'améliorer puis à améliorer ses compétences.
Oui.
Puis s'il y a quelque chose dans le programme que j'ai pas nécessairement vu ou que j'ai moins vu, disons, ben bon, on s'en fait pas outre mesure avec ça parce qu'on a réussi quelque chose sur une autre compétence, disons, lancer un ballon.
Oui.
On a vraiment tout modifié ce qu'on pouvait faire, puis l'élève, finalement, il a été capable, à la fin, de progresser, de cheminer. On est super satisfait.
Mais en fait, c'est surtout ça aussi, c'est de voir qu'il y a une progression.
Oui, parce que, bon, si on se fiait explicitement juste au programme de formation, des fois, les progrès seraient plus difficiles. L'élève aurait peut-être plus d'échecs.
Ben exactement, bon, c'est ça que j'allais dire.
La motivation descend.
C'est ça.
C'est pas ça qu'on souhaite, donc...
On veut qu'ils vivent des réussites.
Exact. Donc, pour qu'ils vivent des réussites, il faut contourner un petit peu.
Oui.
Mais on vit bien avec ça, là, tu sais, à Jean-Colette. Puis l'important, c'est qu'ils bougent puis qu'ils soient contents de ça.
Oui, c'est
qu'ils
ça.
Qu'ils en ressortent du positif.
Puis si, justement, je vous demandais aux deux, dans chacun votre tu sais, je vais dire, Éric, c'est beaucoup plus au niveau informatique, tout ça. Donc, on le sait qu'il y a des enjeux d'adaptation et tout ça. L'éducation physique. Bien, même chose, là. Je veux dire, c'est quand même plus... Moi, je vois déjà plus d'enjeux que d'être assis à un bureau à un petit pupitre et d'écouter, tu sais, l'enseignant et tout ça. Mais justement, c'est quoi qu'on retrouve dans cette clientèle-là qu'on pourrait dire que c'est des défis, des enjeux qu'ils ont, vu qu'ils ont un handicap visuel? Un ou l'autre.
Tu peux commencer, Jeanette.
Ben la plus grosse, le plus gros défi, bon, c'est, ça va paraître un petit peu banal ce que je dis, mais c'est la vision. Bon, dans dans tous les sports, on a des objets à manipuler,
mais oui.
Des ballons, des balles, on a des lignes à voir,
ouais.
Des limites de terrain.
Ouais.
Moi, je pars toujours du principe que j'enlève ça là, de l'équation.
Ouais.
Puis ce que je dois faire, c'est amener le côté sonore. Donc.
Oui. OK.
Une des plus grosses adaptations qu'on va avoir, c'est du matériel sonore
mm-hmm.
ou du matériel agrandi.
Fait oui, comme un ballon plus gros.
Ballon plus gros. Ou exemple, un panier de basketball, le panneau derrière va être surdimensionné.
Ah oui!
Avec une ligne très foncée, beaucoup de contrastes.
Des contrastes, hein? Mm-hmm.
Fait que ça, c'est la première chose. Les contrastes de couleurs, le matériel surdimensionné, du matériel plus texturé.
Mm-hmm.
Et beaucoup, beaucoup de matériel sonore.
Est-ce qu'il y a du braille aussi, là, comme exemple, justement, si je pense aux lignes dans le gymnase, là, il y a des lignes partout là, qui délimitent des frontières là, quand on fait tel jeu. Est-ce que ça, c'est sonore, pas sonore, mais tactile?
Souvent, je vais faire des repères tactiles au sol.
OK.
Avec des textures, là, comme exemple du rugueux, comme du papier sablé.
Oui, oui.
Puis sinon, ce que j'ai fait, j'ai eu cette chance-là, c'est pas tous les profs d'éducation physique qui peuvent faire ça, mais j'ai eu la chance de concevoir mon plancher de gymnase il y a quelques années.
Mm-hmm.
Puis j'ai épuré au maximum et j'ai gardé seulement des lignes qui m'importaient moi dans le programme que je fais. Puis je suis vraiment allé pour le contraste.
Mm-hmm. Oh oui, ça c'est tellement important.
Fait que le contraste des couleurs, beaucoup de foncé versus le fond pâle.
Oui.
Puis j'ai retirer les lignes qui pouvaient mélanger les élèves ou qui ne servaient absolument à rien.
Et pour la piscine, parce qu'il y a beaucoup de cours qui se font dans l'eau?
La moitié de ma tâche se fait à la piscine.
Oui.
Et étonnamment, c'est ça, au début, j'étais vraiment stressé par la piscine.
Oui.
Puis on se rend compte que la piscine est un contexte très sécurisant pour un élève non-voyant ou malvoyant parce que c'est rectangulaire, t'as des câbles, t'as des murs.
Oui.
Donc, c'est plus sécurisant la piscine, le corridor de piscine, qu'un grand gymnase où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'écho.
Oui, oui.
Et ben c'est la même chose à la piscine. Ce qui est plus dur à la piscine, c'est. Ça aussi, ça a l'air banal, mais on peut moins adapter le matériel parce qu'on est toujours dans l'eau.
Mm-hmm.
Puis on ne peut pas amener n'importe quoi dans l'eau, tu sais. Des appareils électroniques
mais ou
du matériel différent qui va prendre l'eau puis qui va pas fonctionner.
Oui.
Mais avec les années, on trouve des trucs. C'est beaucoup plus de se repérer dans l'espace puis de faire des jeux, bon, tactiles, des objets flottants, des gros objets flottants, des objets sonores également.
Aussi.
Donc, c'est la même chose.
OK.
Ouais.
Puis au niveau informatique?
C'est sûr que la beauté de l'informatique, c'est que... on a un peu plus de possibilités d'adaptation, c'est-à-dire autant pour les élèves de cité ou les élèves qui ont un problème de vision, une pathologie particulière. Donc, pour répondre à ta question initiale, ils ont tout à apprendre.
Mm-hmm.
Puis évidemment, lorsqu'on parle d'ordinateur, lorsqu'on parle de différentes plateformes, il n'y a jamais une plateforme qui est semblable à l'autre, il n'y a jamais un logiciel qui est semblable à l'autre. Donc à ce moment-là, ils ont tout à apprendre, autant au niveau de l'utilisation de l'ordinateur, autant au niveau de la compréhension de l'application utilisée pour répondre à des besoins scolaires ou académiques. Mais je vous dirais, un petit peu comme Jonathan disait, quand on est en mesure de créer une étincelle, une curiosité, on vient d'avoir la motivation du jeune. À partir de là, c'est une formalité de le garder motivé, intéressé, qu'il soit en mesure de participer davantage à la dynamique du groupe.
Ouais.
Puis souvent, je me dis, je me répète, je suis désolé, Jonathan, tu m'as déjà entendu, on a un privilège d'enseigner à l'école Jacques Ouellet. C'est-à-dire que on a des petits groupes.
Oui.
On a une proximité avec ces élèves, ces élèves qui sont gagnantes, motivantes. Comme dans le temps des anciennes écoles, on connaît bien les parents parce que ces élèves-là, souvent, ils vont rester plus qu'un an. Donc, on a le temps de les connaître davantage, d'échanger et d'aller en profondeur pour connaître le petit bonhomme, ses besoins, ses intérêts. Tout en connaissant ça, et là, on est en mesure de justement d'orienter nos interventions ou nos projets ou les outils utilisés pour qu'on va garder un certain niveau d'intérêt. Puis l'informatique, je dirais, comme prof d'édu puis comme prof d'informatique, c'est deux matières que Moi et Rousseff, je choyais parce que ces deux massacres qui sont faciles d'aller chercher les jeunes
oui.
pour garder un intérêt.
Ben oui, absolument. Et là, ça veut-tu dire qu'ils font aussi là, des projets scolaires, là, tu sais, que justement le professeur il en profite parce que ah, il y a tel projet, donc on le fait en informatique.
Ben, j'aurais tendance à vous dire, c'est que considérant que le titulaire m'accompagne, justement, tout ce qui est montré, c'est surtout pour des applications ou comment utiliser des ordinateurs mm-hmm. en situation de classe pour répondre à
ouais.
des besoins académiques et scolaires. À part de ça, parce que là, je pourrais vous dire, bon, on part sans faire un petit résumé. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Donc, autant pour le préscolaire jusqu'en secondaire 5, évidemment, de façon variable, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins, pas mm-hmm. tous le même potentiel. Mm-hmm. Donc, on travaille sur la suite Office 365, on
oui.
travaille sur la suite Google Éducation, on fait du montage audio, du montage vidéo, la programmation, la robotique, du 3D, l'intelligence
Mais
artificielle,
oui.
l'utilisation des cellulaires, malgré qu'une politique claire et précise. Par mm-hmm. contre, l'utilisation du cellulaire, lorsqu'on prépare le jeune pour le marché du travail,
oui.
on veut, dans un monde malheureusement très élitiste encore, même si le mot était inclusion est à portée de tout le monde, mais je pense qu'on a encore du chemin à
oui,
faire,
oui,
puis ça soit très efficace.
Mm.
Mais on veut que notre jeune, CV pour CV, quand il arrive devant un employeur, que ses outils informatiques soient un avantage et non un inconvénient. Donc, c'est pour ça qu'on pousse beaucoup l'informatique. Puis c'est une très belle couleur et les jeunes, d'année en année, embarquent de façon... Mais les titulaires aussi,
ben
faut
oui.
dire, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont avec moi, mais ils envoient directement les avantages. Puis s'il y a un avantage pour le jeune, c'est-à-dire c'est un gain, c'est des réussites scolaires et académiques, c'est une motivation qu'on est en mesure de garder. Puis c'est un intérêt qui est toujours assez, assez facile à rejoindre.
Et messieurs, c'est vraiment intéressant. Je savais que cette demi-heure allait passer,
rapidement.
très rapidement. Mais on continue d'en parler après la pause parce que je vais avoir Geneviève Blondin qui est directrice à l'école Jacques-Ouellet. Elle aussi est enseignante auparavant. Et on va avoir Sarah Lucier qui est psycho-éducatrice parce que c'est sûr que c'est une collègue que vous avez à collaborer régulièrement. Merci, messieurs, pour cette belle entrevue.
Merci de l'invitation, c'est apprécié.
Très gentil.
Merci. Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. On continue de parler de la magnifique école Jacques-Ouellet.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et là, je vais accueillir avec moi deux autres personnes de Jacques-Ouellet. Comme j'ai dit juste avant que ça allait être une émission vraiment dédiée à l'école spécialisée Jacques-Ouellet pour les jeunes en situation de handicap visuel. Donc là, je reçois la directrice de l'école, Geneviève Blondin. Bonjour.
Bonjour.
Et je reçois Sarah Lucier, qui est psychoéducatrice à Jacques-Ouellet.
Bonjour.
Bonjour. Et là, je trouve ça super intéressant parce que juste avant, dans mon autre segment, ben, j'avais deux professeurs, un en informatique, un en éducation physique. Et ben là, moi, je trouvais ça super intéressant aussi d'entendre le côté santé mentale des jeunes. Donc, de là, pourquoi, Sarah Lucie, je trouvais ça super important que tu sois présente. Et je me suis dit, ben la directrice aussi, là, parce que c'est quand même là, tout à coordonner cette école-là. Donc, je voulais avoir un peu le capitaine du bateau aussi. Mais ce que, en faisant mes petites recherches, j'ai vu aussi que ben il y a eu tout l'enseignement avant ça. Là. Donc, avant même d'être directrice à Jacques-Ouellet spécifiquement, ben il y avait eu de l'enseignement à Jacques-Ouellet auparavant.
Oui, c'est vraiment l'école où j'ai commencé ma carrière de prof. Là.
C'était, ouais.
Oui, j'ai même fait deux stages pendant que
directement.
J'étais aux études.
Directement,
ouais. OK. Pendant mon bac en orthopédagogie. Là,
ouais.
Je suis orthopédagogue
ben,
de formation.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est ça. J'ai fait mon bac à l'Université de Montréal. On avait les deux derniers stages que j'avais à faire, c'était, je les ai faits à Jacques-Ouellet. Un au service externe, puis un à l'interne dans l'école.
Dans l'école, français. OK. Puis là, justement, ma question, parce que j'aime ça, tu sais, voir un petit peu le chemin, le parcours qui fait que tout d'un coup, on est avec des personnes en situation de handicap visuel, alors qu'au départ, nous-mêmes, on n'en a pas, là. Mm-hmm. Donc, mais là, ce que je comprends, c'est que même déjà à l'université, le chemin s'est dirigé volontairement là, avec des jeunes avec un handicap visuel. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui a amené?
C'est même
là?
Avant l'université.
Avant.
Parce que, oui, c'est ça. Moi, en 1995, j'ai commencé à travailler à la Fondation des aveugles du Québec.
Ah!
Comme bénévole, en fait. C'était presque... C'était tout petit, là, la Fondation. Oui. Ça s'appelait même pas comme ça. Ça s'appelait Sports et loisirs passe-partout.
Oh, mon Dieu! OK.
Ouais, c'est l'ancêtre du service des loisirs de la Fondation. Mm-hmm. Donc, j'ai travaillé... au début, j'étais bénévole en ski. Tu sais, je faisais du scalping avec les élèves.
OK.
Et il y avait très peu de jeunes qui participaient. Là. Il y avait, je pense, comme 4-5 jeunes. Là, qui, tous des ados, tout ça. Puis là, on a comme... monter ce service des loisirs, là, en allant chercher la clientèle des enfants 6-12 ans, puis aussi en recrutant des bénévoles, en recrutant des moniteurs, on a fait un camp d'été, tout ça. Donc, j'ai vraiment eu la piqûre pour cette clientèle-là.
OK, mais à ce moment-là, justement, qu'est-ce qui fait qu'on fait du bénévolat à la Fondation des aveugles déjà et non... autre organisme.
Oui, c'est ça. Bien, ça a commencé que j'ai rencontré dans un kiosque, tu sais, dans un centre d'achat, je pense, là, une table avec Mira.
Oui, il y avait ça beaucoup avant, ouais, c'est vrai. Oui, je me rappelle.
Puis là, en discutant avec eux, celui qui était à la table, mm-hmm. il m'a dit, c'était M. Jean Perron, je me souviens de son nom.
Oui, M. Jean Perron.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, il m'a dit, il existe un organisme qui font des loisirs avec des jeunes. Il dit, t'aimerais travailler avec les jeunes. J'avais probablement dit ça au passage.
Oui, c'est ça, dans la discussion.
Là, j'ai communiqué avec cet organisme-là qui était Sports et loisirs passe-partout. J'ai commencé à faire du bénévolat. Et c'est ce qu'il y a... Ah, moi, j'étudiais en sciences économiques, là. Fait que, tu sais, j'étais dans le domaine.
C'était pas ça pantoute, là.
J'ai vraiment eu la piqûre de cette clientèle-là. Je disais, je vais devenir orthopédagogue ou en tout cas, je vais faire un bac en éducation pour travailler, tu sais, que ça soit ça, mon travail dans la vie, de travailler avec les élèves aveugles et malvoyants. Donc, j'ai fait ce bac-là. Et là, évidemment, je me suis arrangée pour que mes deux derniers stages soient là.
OK.
À l'école Jacques Ouellette. Puis après ça, ben j'ai tout fait pour avoir un poste dans cette école. Puis j'étais chanceuse parce que ça a fonctionné.
Ça a fonctionné,
oui. Ben, j'ai fait des contrats au début, là, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai eu un poste. Puis c'est ça.
Puis là, ça a été l'enseignement.
Oui, là, j'ai fait de l'enseignement.
Pendant?
Ouais. Ben de 2000 à 2013.
OK.
J'ai occupé, là, tu sais, comme j'ai fait plusieurs contrats différents postes dans l'école.
Oui.
Et ensuite, je suis devenue, on était prof itinérant à l'époque. On est devenu conseiller pédagogique.
Il y en a parlé, justement, Éric.
Éric qui était prof itinérant, là, avant moi.
C'est ça. C'est puis ça. Là, c'est là, quand il parlait, j'ai dit, ça ressemble un peu à conseiller pédagogique, finalement.
Ça ressemble, oui, ça ressemble.
Ça ressemble. C'est ça, c'est à l'externe.
Oui.
Mais on n'est pas vraiment avec les jeunes, là.
À l'époque, on l'était. Qu'on allait voir directement les élèves dans leur classe.
Okay.
Puis là, ils le font encore, mais à des degrés divers, mm-hmm. là, un petit peu moins de façon intense. Mais, et c'est ça. Fait que là, j'ai fait cet emploi-là de prof itinérant qui est devenu conseiller pédagogique en déficience visuelle et ensuite personne ressource en déficience visuelle.
Okay.
J'ai terminé, avec le poste le titre de personne ressource en déficience visuelle. Puis après, là, je suis allée en direction. J'ai voulu connaître d'autres choses, faire autre chose, mais là, j'ai fait 10 ans comme direction adjointe et direction d'école dans d'autres milieux complètement.
Pas à Jacques Ouellette.
Pas du tout à Jacques Ouellette.
OK, là c'est vraiment, c'est comme, je veux être directrice, on trouve quelle école.
C'est ça. On applique en direction. Puis là, finalement...
il y a du roulement au niveau de la direction, de toute façon. Là, on dirait naturellement, ils vont dire après tant d'années... OK, là, je pense que ça serait le fun que ça soit...
Il y a plusieurs considérations. Là, il y a plusieurs choses qu'on prend en considération. Là,
Direction va être là pendant 20 ans. Là.
Non, c'est ça.
C'est ça que je veux dire. Là.
Oui, parce que le milieu peut servir à former aussi d'autres d'autres gestionnaires, ouais, qui viennent d'une plus petite école, ils viennent dans cette... Bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Ouais.
Parce qu'un centre de service, ça a beaucoup d'écoles très variées, primaire, secondaire, spécialisée,
ouais,
adulte, formation professionnelle, tout ça. Puis, au début, on commence comme adjointe. Donc, c'est ça, j'ai fait 5 ans direction adjointe au centre d'éducation des adultes, le Moine-Diberville. 2 ans dans une école primaire de Brossard.
Okay.
Et 3 ans ensuite, là, direction d'école à l'école Félix-Leclerc. Donc, puis là, il y avait besoin d'une direction à Jacques-Ouellette. Là, il y avait comme une direction qui quittait. Donc, ouais, il y avait besoin d'une direction. Ils m'ont appelé puis ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Là.
Depuis sûr, j'ai dit oui, là. 2023? OK, ouais, c'est ça. Depuis 2023, c'est le chapeau là, de directrice
de l'école. Jacques-Ouellette. Ouais, okay. Je suis revenue dans un milieu que je connaissais déjà, oui, qui avait changé quand même, mais que je connaissais.
Ben,
je connaissais la déficience.
Oui, oui, c'est ça. On voit qu'il y avait vraiment un intérêt.
Ouais.
Sarah Lucier,
oui,
psychoéducatrice.
Oui.
Est-ce que c'est un peu la même chose que on rentre dans la, on est en train d'étudier, puis on se dit, hey, moi, je vais être avec des jeunes qui ont un handicap visuel?
Non, j'ai pas du tout le même parcours que, okay, Geneviève.
OK.
En fait, oui, j'ai étudié en psychoéducation. À la fin de l'université, il y avait plus, on parle des années, au début des années 2000, des postes,
ouais,
en psychoéducation, il y en avait, mais pas tant non plus.
Oui.
Fait que je suis rentrée au CSS Marie-Victorin comme éducatrice spécialisée.
Oui.
Donc, les premières années, là, les 2-3 premières années, j'ai été vraiment éducatrice au régulier ou en classe spécialisée, mais dans des écoles régulières.
Oui.
Je pense que ça a forgé là, mon approche beaucoup terrain là, dans mes interventions.
Oui, oui, oui.
Suite à ça, bon, j'ai accédé à un poste comme psychoéducatrice. J'ai travaillé un peu au primaire, mais beaucoup au secondaire, entre autres à Saint-Hubert, dans une très grosse école secondaire.
Oui, OK.
J'avais une clientèle en adaptation scolaire là, qui était davantage, on appelle ça des classes phénix. Là. C'est,
oui,
des classes qui, sont, qui répondent aux besoins des élèves qui ont des enjeux au niveau de la santé mentale.
Oui, oui, oui.
Fait que j'ai été là pendant 10 ans.
Okay.
Quand même. Mais au travers de tout ça, au bout de 10 ans, à un moment donné, je me suis dit, bien, je pense que j'ai besoin d'un autre défi.
Mm-hmm.
L'école Jacques-Ouellette m'a toujours un peu fascinée, intéressée. Il y avait, okay, toujours un petit quelque chose qui me... J'avais une curiosité,
oui,
par rapport à l'école Jacques-Ouellette.
Oui.
Et la psychoéducatrice qui était là avant moi, elle a fait sa carrière à Jacques-Ouellette. Dans le fond, elle a fait 30 ans de carrière dans la même école.
Hey, wow.
Donc, quand elle a pris sa retraite, c'était un peu l'occasion rêvée d'appliquer,
oui,
parce que vu que c'est pas une grosse école, il n'y a pas 2-3 psychoéducatrices,
non,
dans la même école, il y en a juste une. Donc, si le poste se libère...
Il y a juste une psychoéducatrice dans l'école,
oui. Oui.
À temps plein.
Oui.
C'est ça.
Donc,
parce qu'au régulier, souvent, la psychoéducatrice, ça fait même quelques heures dans plusieurs écoles. Mais là, la psychoéducatrice...
Oui.
Est attitrée complètement à 100% de la tâche.
Exactement,
okay,
exactement. Donc, et là, ben, quand la psychoéducatrice a pris sa retraite, c'était vraiment pour moi l'occasion rêvée.
Oui.
Je me suis dit, si les gens restent aussi longtemps à Jacques-Ouellette, je
ça
vois pas quand
fun,
est-ce que je vais avoir la chance de réappliquer sur,
ouais,
ce poste-là.
Oui.
Alors, donc, elle a pris sa retraite en 2022. Moi, je suis arrivée en 2022.
OK, donc c'est récent
fait
aussi.
Que ça fait, oui, ça fait 4 ans.
OK.
Mais j'avais besoin de vivre un nouveau défi.
Mm-hmm.
Donc, puis je trouvais que, justement, la déficience visuelle, ça me sortait complètement de ma zone de confort professionnelle.
Oui.
Personnelle, j'ai pas de déficience visuelle à moi, tu sais, à propre titre.
Oui, oui.
Mais j'ai quand même, les gens le savent pas parce que je porte des verres de contact à temps plein, mais j'ai une très forte myopie.
Oui, mais c'est ça. Des fois, ça paraît pas, mais...
Oui.
Tu dis oui, j'ai quand même...
J'ai vraiment une très forte myopie,
ouais,
et il y a des enjeux dans ma famille élargie là, de glaucome, de dégénérescence maculaire et tout ça. Puis j'ai toujours ça, moi, derrière la tête. Moi-même, dans ma vie ou dans mon processus, je ne sais pas, moi,
oui,
comment ma situation visuelle va se développer,
oui,
vers la...
En vieillissant. Non, c'est ça.
Puis... Pour moi, il y avait quand même une certaine anxiété ou quelque chose,
oui,
de stressant par rapport à ça. Puis
je me suis dit, d'arriver
à Jacques-Ouellette puis de voir la résilience,
ouais,
de ces enfants-là,
ouais,
et de ces jeunes adultes-là qui, certains, ont vécu des épreuves vraiment tragiques, traumatiques,
des cancers,
des accidents, des maladies,
ouais,
peu importe. Et de les voir aussi résilients, j'ai rarement vu ça dans ma carrière.
Mm.
Ça a fait un baume dans mon cœur personnel.
Ça fait un baume, hein, mais en même temps, on dirait que ça... Ça confronte aussi, hein?
Tout à fait. Ça me confronte, moi, dans moi-même, personnellement.
Exactement, c'est
avec
ça.
Avec ma situation à moi qui pourrait arriver. Bon, bref, peu importe. Mais de les voir, eux, et de voir comment ils accueillent la vie et comment ils se déploient, je trouve ça fabuleux. Fait que pour moi, c'est un cadeau professionnel, parce que...
Et personnel.
Et tout à fait, vraiment.
Oui. Oh oui, non, je comprends amplement, parce que moi-même, j'ai un handicap visuel, donc j'ai aussi cette espèce d'épée Damoclès, tu sais, qui est au-dessus de ma tête, et que, ben pourquoi, quand je rencontre des personnes en situation de handicap visuel, surtout des jeunes, des fois, là, ça me rentre dedans, là, parce que là, je me dis, ben là, mon Dieu, tu sais, c'est tellement inspirant de voir, tu sais, comment ils passent au travers de ça, puis qu'il y en a même, là, des fois, tu sais, ils vont vraiment dire, oh non, moi, j'ai pas peur de ça, moi, je pense pas à ça. Je me dis, oh mon Dieu, moi, j'ai vraiment l'impression que plus on vieillit, moins on est résistant et qu'on est prêt à... J'ai l'impression qu'on perd avec les années l'espèce de force naturelle qu'on a quand on est plus jeune, en tout cas pour le voir, là, tu sais, puis même quand je reçois des personnes, justement, qui vont connaître la déficience visuelle en vieillissant sur le tard, là, tu sais, tu le vois que c'est beaucoup plus difficile parce que ta vie est comme... faite, là, tu sais, tout est fait et là, tu dois tout adapter, tandis que là, c'est des jeunes qui partent avec ça. Et là, on parle à Jacques Ouellette, c'est des jeunes de 4 à 21 ans. Hein?
Oui.
Donc, on a des jeunes plus vieux que dans les écoles au régulier, ou est-ce que au régulier, c'est jusqu'à 16 à peu près, là, en général, secondaire 5, 16-17, ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est vraiment, y a-tu comme une année plus, ou comment ça fonctionne, ou c'est que leur année, c'est pas défini comme les années au régulier, tu sais, que le ministère de l'Éducation...
Bien, en fait, le ministère de l'Éducation prévoit que tous les élèves qui ont un handicap ou des difficultés comme telles que la vision, là, tous les élèves qui soient au régulier, en classe spécialisée ou à l'école spécialisée, ont jusqu'à 21 ans pour compléter leur parcours scolaire.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas juste Jacques Ouellette, c'est pas juste dans les écoles spécialisées. Tous les élèves, même du régulier, qui ont un handicap, ont jusqu'à 21 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder un élève jusqu'à 21 ans au secteur jeune. À un moment donné, s'il n'est pas diplômable, là, mettons, à 18 ans, on va dire, bien... T'sais, on va l'orienter plus aux adultes, c'est ça. On fait tout là, pour qu'ils réussissent avant ce temps-là. Mais bon, mais quand ils ont un handicap, on reconnaît que c'est plus long, ça peut être plus ardu, il y a des obstacles qui sont sur leur route. Là.
Mm-hmm.
Donc, on va reconnaître qu'ils ont jusqu'à 21 ans, mais pas juste à l'école spécialisée.
OK, OK.
Donc, mais nous, c'est d'emblée parce que... c'est d'emblée. C'est pas d'emblée qu'un élève va rester jusqu'à 21 ans, mais c'est d'emblée qu'il a le droit là, de venir à l'école Jacques Ouellette jusqu'à 21 ans. Puis on fait partie du secteur jeune uniquement. Mm-hmm. C'est pas... Il y a pas une partie aux adultes, une partie aux jeunes. Ouais. Donc, malgré le fait qu'ils peuvent être adultes, là, de 18 à 21 ans, c'est des vrais adultes, mais ils font partie du secteur jeune parce qu'ils ont un code de difficulté là, qui relève d'un handicap. Là.
Mais c'est ça qui est spécial parce qu'au régulier, c'est maternelle à sixième année. Après ça, on s'en va au secondaire. Les secondaires ne sont pas avec les maternelles. Mm-hmm. Déjà, avec les sixième années, on dirait qu'il y a
un monde.
Oui. Donc là, j'imagine Jacques Ouellette de 4 ans, donc quand même encore plus jeune que nos maternelles, là, souvent. Ouais. Là, t'sais. Donc, 4 ans et 21 ans.
Oui.
Mais là, que tout le monde...
C'est une vraie société.
Se côtoie. Ben, c'est exactement ça.
C'est une vraie petite société. Contrairement aux autres écoles où c'est très...
séparé,
cloisonné. Ouais. Puis, tu sais, un élève de premier cycle, des fois, le premier cycle et le deuxième cycle ne sont même pas en même temps, c'est en cours d'école parce non, ça se fait pas.
Ouais.
Non, nous, c'est vraiment pas ça. C'est, c'est une école spécialisée, mais c'est sûr qu'il y a des écoles spécialisées où les élèves vont avoir des grands, grands retards au niveau, mettons, intellectuel, ce qui n'est pas le cas nécessairement là, à Jacques Ouellette.
Mm-hmm.
Donc, c'est vrai qu'il y a des petits qui côtoient des plus grands. Puis, tu sais, il y a tout un échange. C'est vraiment particulier, mais je pense que c'est bénéfique. Puis, c'est encore mieux que le premier cycle puis le deuxième cycle, je joue pas ensemble, c'est la cour d'école.
Bien, moi, je trouve ça ridicule. Ben oui. Tu sais, du moment que 4, 5e année, 6e, tu sais, sont comme à une place, les maternelles peuvent jouer juste dans ce carré-là.
Ouais.
Tu sais, c'est comme, tu as un module, tu joues dans ton module, Puis là, tu sais, ah, OK, tu sais, c'est ça. Non, ils se séparent. Tandis que là, vous...
Non, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus inclusif.
Ça. Ah ouais, mais je trouve ça... J'imagine, là, on dirait que je vois des jeunes tout petits, avec des grands, tu sais, qui se côtoient tout le monde ensemble. Je trouve ça vraiment
beau. Il y avait une situation l'année dernière où, je sais pas si c'est au printemps dernier ou... oui, je pense que au printemps dernier. On joue au soccer, évidemment, comme dans toutes les écoles. Nos élèves aiment beaucoup jouer au soccer.
Ouais.
Quand c'était juste le primaire qui était dehors, les techniciennes en éducation spécialisée, là, les TES, ils disaient « Ah, il y a beaucoup de chicanes. » Tu sais, ça se chicane, ça se craque le chignon, là, parce que c'est bon. Mais dès que le secondaire, puis même le CFR, qui sont encore plus vieux au CFR...
Le CFR, c'est justement, c'est là quand on te prépare...
Oui, c'est ça. Ben, c'est pour une certaine clientèle là, qui répond aux...
Ouais, c'est ça.
Chloé est au CFR, justement.
C'est ça que j'entends. Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc là, quand ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à jouer au soccer avec les... Ah là, il n'y en avait plus de chicanes, là. C'était... Ça s'est comme tout régulé.
Naturellement.
Oui, plus naturellement. Les plus petits voulaient comme bien paraître devant les plus vieux. Les plus vieux faisaient attention aux plus petits.
Wow.
C'était... C'est ça. Fait qu'il y a des avantages à ça, là.
Absolument. Et Sarah, moi, c'est sûr que ce côté-là, psychoéducation, donc là, on parle vraiment de la santé mentale, mais on le sait que quand c'est au niveau des écoles, dans le fond, ce qui est important, c'est que le jeune complète, tu sais, au niveau académique et tout ça, puis qu'il ait son diplôme. Et là, le côté éducation spécialisée embarque pour soutenir ça. Hein? Pour
les capacités adaptatives des élèves.
Oui, on n'est pas en train de faire de la thérapie et tout ça. Là, donc, c'est vraiment soutenir. Mais justement, comme psychoéducatrice, est-ce que ça se passe pareil? Les jeunes, justement, ils vont se battre sa... Mais tu sais, comme ce que j'ai vu tellement, tu sais, les jeunes vont se battre sa cour d'école, ils vont avoir des chichis de filles. Tu sais, tout ça, là.
Oui.
Ça fais-tu partie?
Bien, je vais dire, une école, c'est une école. Hein? Que ce soit une école spécialisée ou une école régulière, des chicanes, des difficultés au niveau des habiletés sociales.
C'est ça!
Ça fait partie du quotidien. Je pense que, bon, on est une plus petite école, fait que c'est à moins grande échelle.
Oui.
Mais il y a de l'apprentissage à faire auprès de nos élèves parce que, justement, ils apprennent pas. Étant donné qu'ils ne voient pas, il y a plein de choses, plein d'apprentissages qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire.
Oui.
Ne serait-ce que dans les relations sociales, comment qu'on s'adresse à quelqu'un, comment qu'on joue et tout ça. Fait que nous, on est beaucoup dans de l'enseignement explicite à l'école, plus, parce que ne serait-ce que la posture, comment qu'on salue quelqu'un et tout ça. Mais ça reste que des chicanes de petites filles, c'est des chicanes de petites filles, des chicanes de « il a volé mon ballon ».
Oui,
puis,
c'est ça.
Ça a lieu d'être. Ça, oui.
C'est ça. Et est-ce qu'il y a des jeunes, justement, parce que, tu sais, au niveau de finalement tes tâches, tu sais, que là, tu vas régler autant une gestion de conflit de ballon comme...
Ça va être plus le rôle des éducatrices spécialisées et des gens qui sont, mettons, en surveillance sur la cour et tout ça. Oui, effectivement. Moi, mon rôle, il est davantage... moi, je suis en soutien clinique.
Oui, entre autres.
Oui. Fait que moi, j'ai plus un rôle un peu de coordonnatrice avec les partenaires externes. Parce que, bon, tu sais, l'école Jacques-Ouellet, on travaille beaucoup avec les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux.
Oui.
Entre autres, INLB, pour ne pas les nommer.
Exact.
Mais fait que souvent, ben, la courroie de transmission, quand on a besoin de passer de l'information, ça va souvent passer par moi.
On peut avoir aussi la DPJ, probablement.
Oui, surtout, oui.
C'est
Oui, les centres de réadaptation aussi au niveau moteur, physique, des partenaires comme un peu la Fondation des Aveugles du Québec, les partenaires justement communautaires, tout à fait. J'ai vraiment un rôle plus clinique dans...
Comme l'évaluation, des rapports?
Pas tant, parce qu'il arrive souvent à l'externe déjà avec des évaluations et tout ça.
Fait
que le rôle à l'école n'est pas tant ça. C'est plus, mettons, dans la classe, ben là, nous, on va faire des rencontres cliniques, c'est-à-dire des rencontres avec l'enseignant, avec l'éducateur spécialisé ou l'éducatrice spécialisée. Puis là, on regarde ensemble c'est quoi le plan de match qu'on fait pour faire évoluer cet enfant-là. Quels sont ses défis? Quels sont ses besoins actuels? Jusqu'où qu'on pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on est capable de l'amener. Évidemment, ça passe par un plan d'intervention aussi.
Exact, ce que j'allais dire, c'est un plan d'intervention. Là,
mais oui, tout à fait.
Avec des objectifs clairs.
Exactement. Puis là, nous, on se rencontre régulièrement justement pour voir l'évolution puis voir comment on se réajuste pour amener nos élèves plus loin. Je fais aussi de l'animation en classe. De l'animation de groupe, j'adore ça, faire ça.
Mais
donc, avec des programmes de toutes sortes, là, au niveau...
Là, c'est de la prévention à ce moment-là.
Tout à fait. Puis vraiment, le développement des habiletés sociales. Parce que puis une partie d'autodétermination. Les élèves sont souvent habitués à Jacques-Ouellet de part, évidemment, leurs difficultés, mais de part aussi le fait que les gens veulent bien faire, font souvent à la
font
place d'eux.
À la place, oui.
Dans leur vie, là.
Oui,
c'est présent partout, là.
Ah
ça,
oui,
ouais,
oui, c'est oui, oui, c'est ça. Je veux dire, je le vis, là. Je marche dehors avec une canne blanche. Des fois, je me fais agripper littéralement par le bras et ben, je me suis pas fait demander et je suis en train de traverser la rue.
Puis évidemment, les gens veulent pas mal faire.
Non.
Les gens veulent assurément bien faire puis être bienveillants, oui, mais il y a quand même un apprentissage à faire auprès de nos élèves pour qu'eux-mêmes soient.
Oui, puis il y a un besoin d'autonomie, là.
Tout à fait.
Ben oui, oui, oui.
Ben oui, de développer là, les AVQ qu'on appelle, tout le volet de je suis capable de prendre un choix pour moi-même, prendre des décisions, de prendre pleinement possession de mes goûts puis de ce que j'ai goût de faire dans la vie.
Ouais.
Mais ça, c'est un apprentissage à faire auprès des élèves parce que, justement, certains sont dans une position plus passive puis ils attendent qu'on fasse à leur place. Ça reste un défi.
Oui, ça, c'est sûr.
Ça reste un défi. Puis un des enjeux aussi que je vois dans les dernières années, c'est aussi beaucoup, au niveau des habiletés sociales, les cercles sociaux.
Oui.
Ils ont souvent tendance...
la bulle.
Oui, la bulle, mais aussi faire confiance à n'importe qui.
Ben oui, OK.
Puis tout le monde devient un ami.
Oui,
tout
mais
le monde,
c'est ça.
Mais non, il y a comme un rôle. Tu sais, chaque personne qui est une connaissance, qui fait partie de la communauté, c'est qui sont tes amis rapprochés. T'as pas 92 amis, ce n'est pas vrai.
Mais non.
À qui tu te confies? À qui tu parles de telle affaire? Tu sais, tout ça, c'est vraiment de l'apprentissage explicite que les élèves ont besoin de se faire enseigner.
Absolument.
Fait que ça, je fais beaucoup ça avec les élèves dans mes animations.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de partenariats justement avec les parents? Parce que, comme on le sait, si, exemple, mon enfant a un handicap visuel, ça se peut que je sois surprotecteur et que je fasse pour mon enfant parce que coupe pas le céleri, c'est moi qui vais le faire. Oui. Comme ça, tu te blesses pas.
Oui.
Oui, ça,
oui, exactement. Oui, c'est ça. On travaille autant avec le parent qu'avec le jeune.
Qu'avec le jeune, c'est ça. Ça, c'est le côté de la psychoéducation. Oui. En éducation spécialisée, c'est vraiment plus avec le jeune et moins avec, avec les parents.
Puis des fois, ce qui est le fun, c'est qu'on fait un apprentissage avec le jeune, puis après ça, on le montre aux parents. Regardez ce que votre enfant est capable de faire. Puis là, puis là, on sent que ça chemine à la maison.
C'est ça, c'est ça. Et je voulais voir, parce que justement, là... Tu sais, quand on parle des défis là, avec ces jeunes-là, est-ce qu'on pourrait dire que, vu que c'est une plus petite école, tu sais, qu'il y a quelque chose qu'on arrive à faire justement plus de prévention, qu'on arrive à mettre, tu sais, parce que dans les écoles régulières, on dirait que, tu commences l'année, tu es bien motivé, mais après ça, c'est fini, là. Tu sais, tu n'as plus le temps de rien faire, sauf d'intervenir quand ça se passe. Mm-hmm. Est-ce que, vu que c'est une plus petite école... Il y a comme moyen de garder ce côté-là préventif.
C'est vrai, c'est vrai, c'est une plus petite école. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants aussi.
Mais il y a combien d'intervenants? En fait, il y a combien d'élèves?
Oui, c'est ça. Il y a 55 élèves en ce moment dans l'école.
Mon Dieu! OK,
parce que nos groupes sont 5 à 7 élèves par groupe. Puis des fois, on en a 4, là, puis parce qu'on a réussi à faire un groupe à 4.
Ouais.
Donc, c'est sûr que le soutien qui est dans la classe est beaucoup plus grand que dans un groupe de 20 avec un TES qui est là pour 6 classes.
Oui, c'est ça.
C'est sûr. Fait que oui, on a aussi des employés à l'école qui travaillent, on a des employés qui font du matériel, donc du matériel adapté. Nous, on appelle ça le SPA, c'est le service de production adapté.
Oui.
Donc, on a comme, plusieurs employés qui sont là. On a des employés à la bibliothèque, fait qu'en tout, là, il y a 60...
professionnels?
60 employés.
60 employés.
Il y a des techniciens là-dedans, il y a des employés de bureau. On a une secrétaire, une direction, deux concierges, mais après ça, ce sont tous des techniciens ou des intervenants en soutien direct aux élèves ou des techniciens qui font du matériel adapté.
Là-dedans, les enseignants ne sont pas comptés dans les 60.
Oui,
c'est ça. Les enseignants sont comptés, mais aussi au niveau de la psychoéducation.
Oui, je compte les professionnels. Sarah,
mais il y a des éducateurs.
Une conseillère en orientation.
Oui.
On a une psychologue.
Psychologue.
Mais psychologue, là, c'est très peu d'heures semaine quand même. Là.
Hey.
Très, très peu.
Oui, oui.
Puis une orthophoniste, 3 jours semaine.
Orthopédagogue.
On est tous des orthopédagogues. Ah. Là, les profs, on est tous orthopédagogues.
Okay.
Mais on a aussi un prof d'informatique, un prof de braille, un prof...
Spécifique, OK.
Oui, c'est ça. Puis une enseignante enseignante aussi qui va soutenir dans les classes, soit directement les élèves, soit les... Non, elle est vraiment enseignante.
Non? OK.
Puis elle intervient aussi auprès des élèves du Centre de services scolaires Marie-Victorin qui sont intégrés dans leur école de quartier.
Okay.
Et qui ont de grands besoins. Ouais. Par exemple, si on a deux élèves non-voyantes, bien, c'est sûr qu'elle va intervenir auprès de ces élèves-là et de leur équipe proche, là, ouais. de leur garde rapprochée. Oui. Donc, on a aussi ça fait trois postes de plus d'enseignants. Déjà que chaque classe de 4, 5, 6 là, ont un
ouais,
prof,
ouais.
ça fait quand même beaucoup de profs. Puis, il y a aussi les PEH. Oui, on a quand aussi. Même plusieurs PEH, plusieurs TES.
Incroyable.
7 TES. Oui.
C'est ça. Non, c'est quelque chose. Là.
Il y a beaucoup, beaucoup de soutien.
Énormément de soutien.
Puis ça, c'est dans les écoles... Tu sais, l'école Jacques Ouellet, c'est une école spécialisée. C'est une école, on appelle ça un service de scolarisation, un service suprarégional de scolarisation.
Oui.
Nous, on est spécialisés en déficience visuelle, mais il y a d'autres services régionaux de scolarisation qui vont être spécialisés dans d'autres types de clientèle.
Mm-hmm.
Ça, c'est financé, tu sais, comme directement par le ministère.
Hey, c'était tellement intéressant, mesdames, mais c'est ça, c'est déjà terminé. Mais là, je suis vraiment contente parce qu'on a fait un beau portrait de Jacques Ouellet, toute cette émission. Donc, vraiment, merci à tous mes invités de votre grande générosité. Et moi, ben, j'invite les gens à aller sur le site Internet de Canal M pour écouter les émissions. Ils sont en rediffusion. Et vous pouvez nous retrouver maintenant aussi là, sur toutes les plateformes où est-ce qu'on retrouve les balados et tout ça. Donc, vous écrivez Mission Vision sur Spotify et vous avez mon émission qui est là, justement. Donc, nous, on se retrouve pour une autre belle émission la semaine prochaine. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Bonne journée.
Merci.